Au commencement du mois d'octobre, Lucien, après avoir employé le reste de son argent pour se procurer un peu de bois, resta sans ressources au milieu du plus ardent travail, celui du remaniement de son œuvre. Daniel d'Arthez lui brûlait des mottes et supportait héroïquement la misère. Il ne se plaignait point. Il était rangé comme une vieille fille et ressemblait à un avare tant il avait de méthode. Ce courage excitait celui de Lucien qui, nouveau venu dans les cénacles, éprouvait une invincible répugnance à parler de sa détresse. Un matin, il alla jusqu'à la rue du Coq pour vendre l'archer de Charles IX à Doguereau, qu'il ne rencontra pas. Lucien ignorait combien les grands esprits ont d'indulgence. Chacun de ses amis concevait les faiblesses particulières aux hommes de poésie, les abattements qui suivent les efforts de l'âme surexcitée par les contemplations de la nature qu'ils ont mission de reproduire. Ces hommes si forts contre leurs propres maux étaient tendres pour les douleurs de Lucien. Ils avaient compris son manque d'argent. Le cénacle couronna donc les 12 soirées de causerie, de profonde méditation, de poésie, de confidence, de course à pleine aile dans les champs de l'intelligence, dans l'avenir des nations, dans les domaines de l'histoire, par un trait qui prouve combien Lucien avait peu compris ses nouveaux amis. « Lucien, mon ami, lui dit Daniel, tu n'es pas venu dîner hier chez Flicoteaux et nous savons pourquoi. » Lucien ne put retenir des larmes qui coulèrent sur ses joues. « Tu as manqué de confiance en nous, » lui dit Michel Chrestien. « Nous ferons une croix à la cheminée et quand nous serons à 10... » « Nous avons tous, » dit Bianchon, « trouvé quelque travail extraordinaire. Moi, j'ai gardé pour le compte de Desplein un riche malade. D'Arthez a fait un article pour la revue encyclopédique. Chrestien a voulu aller chanter un soir dans les Champs-Élysées avec un mouchoir et 4 chandelles. » Mais il a trouvé une brochure à faire pour un homme qui veut devenir un homme politique et lui a donné pour 600 francs de Machiavel. Léon Giraud a emprunté 50 francs à son libraire, Joseph a vendu des croquis, et Fulgence a fait donner sa pièce dimanche où il a eu salle pleine. « Voilà 200 francs, dit Daniel. Accepte-les et qu'on n'y te reprenne plus. « Allons, ne va-t-il pas nous embrasser, comme si nous avions fait quelque chose d'extraordinaire ?» dit Chrestien. Pour faire comprendre quel délice ressentait Lucien dans cette vivante encyclopédie d'esprits angéliques, de jeunes gens empreints des originalités diverses que chacun d'eux tirait de la science qu'il cultivait, il suffira de rapporter les réponses que Lucien reçut, le lendemain, à une lettre écrite à sa famille, chef-d'œuvre de sensibilité, de bon vouloir, un horrible cri que lui avait arraché sa détresse. Lettre de David Séchard à Lucien. Mon cher Lucien, tu trouveras 6 juin un effet à 90 jours et à ton ordre de 200 francs. Tu pourras le négocier chez correspondant Monsieur Métivier, marchand de papier, à Paris, rue Serpente. Mon bon Lucien, nous n'avons absolument rien. Ma femme s'est mise à diriger l'imprimerie et s'acquitte de sa tâche avec un dévouement, une patience, une activité qui me font bénir le ciel de m'avoir donné pour femme un pareil ange. Elle-même a constaté l'impossibilité où nous sommes de t'envoyer des plus légers secours. Mais mon ami, je te crois dans un si beau chemin, accompagné de cœurs si grands et si nobles, que tu ne saurais faillir à ta belle destinée en te trouvant aidé par les intelligences presque divines de messieurs Daniel d'Arthez, Michel Chrestien et Léon Giraud, conseillés par messieurs Méraud, Bianchon et Rédal que ta chère lettre nous a fait connaître. À l'insu d'Ève, je t'ai donc souscrit cet effet que je trouverais moyen d'acquitter à l'échéance. Ne sors pas de ta voix. Elle est rude, mais elle sera glorieuse. Je préférerais souffrir 1000 maux à l'idée de te savoir tomber dans quelque bourbier de Paris où j'en ai tant vu. Aie le courage d'éviter, comme tu le fais, les mauvais endroits, les méchants gens, les étourdis et certains gens de lettres que j'ai appris à estimer à leur juste valeur pendant mon séjour à Paris. Enfin, sois le digne émule de ces esprits célestes que tu m'as rendu cher. Ta conduite sera bientôt récompensée. Adieu, mon frère bien-aimé, tu m'as ravi le cœur. Je n'avais pas attendu de toi tant de courage, David. Lettre d'Ève Séchard à Lucien Chardon. Mon ami, ta lettre nous a fait pleurer tous. Que ces nobles cœurs vers lesquels ton bon ange te guide le sache, une mère, une pauvre jeune femme prieront Dieu soir et matin pour eux. Et si les prières les plus ferventes montent jusqu'à son trône, elles obtiendront quelques faveurs pour vous tous. Oui, mon frère, leurs noms sont gravés dans mon cœur. Ah! Je les verrai chaque jour. J'irai, dussé-je faire la route à pied et les remercier de leur amitié pour toi, car elle a répandu comme un baume sur mes plaies vives. Ici, mon ami, nous travaillons comme de pauvres ouvriers. Mon mari, ce grand homme inconnu que j'aime chaque jour davantage en découvrant de moment en moment de nouvelles richesses dans son cœur, délaisse son imprimerie et je devine pourquoi. Ta misère, la nôtre, celle de notre mère l'assassine. Notre adoré David est comme Prométhée dévoré par un vautour, à chagrin jaune à bec aigu. Quant à lui, le noble homme, il n'y pense guère. Il a l'espoir d'une fortune. Il passe toutes ses journées à faire des expériences sur la fabrication du papier. Il m'a prié de m'occuper à sa place des affaires dans lesquelles il m'aide autant que lui permet sa préoccupation. Hélas, je suis grosse. Cet événement qui me comblait de joie m'attriste dans la situation où nous sommes tous. Ma pauvre mère est redevenue jeune. Elle a retrouvé des forces pour son fatigant métier de garde-malade. Au souci de fortune près, nous serions heureux. Le vieux père Séchard ne veut pas donner un liard à son fils. David est allé le voir pour lui emprunter quelques deniers afin de te secourir, car ta lettre l'avait mis au désespoir. « Je connais Lucien, il perdra la tête et fera des sottises, » disait-il. Je l'ai bien grondé. « Mon frère, manqué à quoi que ce soit ?» lui ai-je répondu. « Lucien sait que j'en mourrai de douleur. » Ma mère et moi, sans que David s'en doute, nous avons engagé quelques objets. Ma mère les retirera dès qu'elle entrera dans quelque argent. Nous avons pu faire ainsi 100 francs que je t'envoie par la messagerie. Si je n'ai pas répondu à ta première lettre, ne m'en veux pas, mon ami. Nous étions dans une situation à passer les nuits. Je travaillais comme un homme. Ah, je ne me savais pas autant de force. Madame de Bargeton est une femme sans âme ni cœur. Elle se devait, même en ne t'aimant plus, de te protéger et de t'aider après t'avoir arraché de nos bras pour te jeter dans cette affreuse mer parisienne, où il faut une bénédiction de Dieu pour rencontrer les amitiés vraies parmi ces flots d'hommes et d'intérêts. Elle n'est pas à regretter. Je te voulais auprès de toi quelques femmes dévouées, une seconde moi-même. Mais maintenant que je te sais des amis qui continuent nos sentiments, me voilà tranquille. Déploie tes ailes, mon beau génie aimé. Tu seras notre gloire comme tu es déjà notre amour. Ève. Mon enfant chéri, je ne puis que te bénir après ce que dit ta sœur, et t'assurer que mes prières et mes pensées ne sont, hélas, pleines que de toi au détriment de ce que je vois. Car il est des cœurs où les absents ont raison, il en est ainsi dans le cœur de ta mère.